Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good Morning Business, le grand entretien.
Et le grand entretien avec François Jacob, le directeur général du groupe Air Liquide. Bonjour.
Vous êtes Jean-Christophe.
directeur général, depuis le 1er juin. Vous avez succédé à Benoît Potier. Je rappelle quand même Air Liquide, 66 000 salariés, 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, on va beaucoup en parler. Puis les gaz purs pour l'industrie, des semi-conducteurs pleins de marchés porteurs.
Des marchés porteurs et une crise énergétique qui est désormais le quotidien des industriels. Vous misez, vous, sur l'hydrogène depuis très longtemps, sur la décarbonation de l'industrie depuis très longtemps. Est-ce que ce n'était pas le meilleur moment pour prendre la tête d'Air Liquide ?
Peut-être. Effectivement, on est en face d'une crise peut-être sans précédent. Mais pour nous, groupe Air Liquide, ça représente des opportunités très significatives d'inventer l'industrie sans carbone ou la mobilité sans carbone. En particulier.
Alors ça va prendre du temps quand même parce que vous mettez beaucoup en avant l'hydrogène, vous avez raison, c'est sans doute notamment pour le transport une énergie d'avenir, mais pour l'instant elle est très peu décarbonée, y compris la vôtre. Ça mettra combien de temps à avoir de l'hydrogène vert-vert ?
Alors de l'hydrogène vert, c'est-à-dire fait à partir...
L'électrolyse de l'eau.
Voilà, et surtout d'énergie renouvelable, parce que c'est ça la clé, d'électricité renouvelable. On en fait déjà aujourd'hui, puisqu'on achète de l'énergie renouvelable et on produit de l'hydrogène.
Mais quelle part de
petite
l'hydrogène
quantité.
Ouais, c'est ça, petite quantité.
Aujourd'hui, c'est moins de 5%, probablement. Oui. Mais là, vous avez probablement vu qu'en Normandie, on est en train de construire la plus grande unité de production d'hydrogène renouvelable du monde, mm-hmm. et qui devrait voir le jour d'ici deux ans et demi.
Votre pari, c'est l'hydrogène, sur le même pari que le gouvernement et que l'Union européenne, sur les poids lourds, sur les trains. Vous y croyez à l'hydrogène pour les voitures ? On pose la question à tous les invités qui viennent nous voir.
Alors, l'hydrogène a un rôle à jouer dans l'industrie pour décarboner les procédés, mais aussi pour la mobilité, mais surtout pour la mobilité lourde, là où on a besoin d'autonomie, là où on a besoin de déplacer les charges. Donc, c'est les marchandises et c'est les transports collectifs de personnes.
Donc, ce n'est pas les voitures.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément les voitures particulière, même si moi personnellement je suis venu ce matin avec une voiture à hydrogène, j'ai fait plus de 25 000 km en voiture à hydrogène,
fonctionne. C'est la Toyota.
Très bien, c'est la Toyota Mirai, très bonne voiture.
Alors bientôt vous pourrez rouler avec l'opium, j'espère que vous avez précommandé déjà.
J'espère, je n'ai pas encore précommandé, mais ce serait avec grand plaisir. Mais donc ça veut dire que pour les voitures légères, en fait on vise plutôt des flottes qui font beaucoup de kilomètres, comme par exemple les taxis. Vous voyez à Paris de nombreux taxis bleus qui roulent effectivement à l'hydrogène.
Alors, vous parliez de cet électrolyseur géant qui a été inauguré effectivement à Port-Jérôme en Normandie vendredi. Il y avait le commissaire européen d'ailleurs Thierry Breton qui était avec vous. Expliquez-nous un peu quel investissement ça représente, quelle est la technologie, comment vous allez alimenter ce super électrolyseur.
Alors, c'est une technologie qui, à cette échelle-là, est tout à fait novatrice. C'est une unité qui va faire plus de 200 mégawatts de capacité, ce qui veut dire que c'est plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Ouais. Donc, quelque chose de très significatif. Alors, c'est un projet industriel qui va demander deux ans et demi de construction. On est en train de préparer le site. On a beaucoup de support de la région Normandie et de l'État français et de l'Europe, ce qui est une très bonne nouvelle.
La Normandie, c'est la région de l'hydrogène désormais. C'est là où il faut être.
La Normandie a vraiment fait ce choix d'une énergie décarbonée. On a aujourd'hui déjà la première production d'hydrogène décarboné, puisqu'on fait de l'hydrogène à partir de gaz naturel, mais on capture le CO2. On a aussi également un pipeline qui va globalement de Rouen jusque Le Havre, qui sera le premier pipeline décarboné pour fournir l'industrie aujourd'hui, mais ce sera aussi une infrastructure pour permettre la mobilité dans cet axe de Seine.
Alors l'hydrogène, c'est le futur d'Air Liquide. Pour l'instant, c'est à peu près moins de 10% du chiffre d'affaires. Vous avez multiplié par 3 votre chiffre d'affaires dans l'hydrogène d'ici 2035. Vous allez passer de 2 à 6. Il y a d'autres gaz qui font votre histoire et qui continueront à votre futur. C'est évidemment l'oxygène, l'azote, on peut en parler. Et puis les gaz purs, c'est intéressant parce que c'est aussi un créneau en fort développement, des gaz purs pour l'industrie des semi-conducteurs. On a vu à quel point il y a eu des investissements massifs dans les semi-conducteurs au cours des derniers mois. mois. Est-ce que ça a impacté votre business dans ce domaine ?
Bien sûr, aujourd'hui on est numéro un de la fourniture des gaz spéciaux de très haute pureté pour l'industrie des semi-conducteurs. On a vu le boom de cette industrie avec globalement deux tendances de fond. Un, c'est l'émergence des les besoins de données, de communication, les serveurs et la télécommunication d'une façon générale. Donc ça, c'est un marché grandissant. Et puis aussi, des besoins de souveraineté, où on a vu que de nombreux pays pensent que c'est absolument critique d'avoir accès à cette technologie. Donc les investissements qui étaient jusqu'à présent extrêmement focalisés en Asie se trouvent maintenant encore en Asie, mais aux États-Unis ou en Europe.
Par exemple, le site de STMicro.
Bien sûr, tout à fait.
Vous fournissez, j'imagine, des gaz pour la production de leurs puces.
Alors, on fournit STMicroelectronics dans un certain nombre de sites dans le monde.
Mais effectivement. Pas à Kroll.
À Kroll, bien sûr, bon, vous verrez les installations Air Liquide, mais c'est vrai à d'autres endroits aussi en Europe, en Allemagne en particulier, et puis aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plus d'une douzaine de méga-fabs qui sont en construction, et donc là, on voit que la géographie et les implantations sont en train de se transformer.
Il y a la dimension politique, les développements de pouvoir de politique publique. Il y a aussi la question des bras et des ingénieurs. Est-ce que vous avez aujourd'hui, pour développer l'ensemble des projets que vous avez sur l'hydrogène, suffisamment d'ingénieurs? On a reçu notamment le représentant des ingénieurs en France qui disait on ne fabrique plus assez, on a même plus assez de gens pour mettre dans les écoles. Est-ce que vous avez une tension?
Alors c'est vrai qu'il y a une tension dans les métiers techniques, en particulier d'ingénieurs. Ça touche tout le monde. On a la chance d'être sur des métiers qui sont porteurs et sur des métiers d'avenir et qui, je pense, donnent un sens et nous permettent d'attirer les meilleurs un peu partout dans le monde.
Quand vous dites décarbonation, c'est un mot magique ?
Bien sûr.
Ça attire ?
Bien sûr. On voit un regain depuis quelques années d'ingénieurs qui veulent venir inventer les solutions, faire d'Air Liquide ce qu'on veut faire, un champion des solutions climat. Et pour trouver des solutions, en fait, il faut être capable d'inventer, de designer des usines. Et on voit que les gens veulent venir en recherche, en développement, dans nos entités d'ingénierie.
Donc pas de tension chez vous, de recrutement ?
On arrive globalement à avoir des ingénieurs, bien sûr. On a une certaine tension plutôt dans les techniciens en particulier. Et donc, on essaye aussi de leur proposer des nouvelles filières et d'inventer les métiers de demain. Vous parliez d'hydrogène en particulier et de Normandie tout à l'heure. La Normandie est leader et est en train de mettre en place un BTS des métiers d'hydrogène dans lequel on est associé. Et je crois que c'est important aussi d'inventer ces métiers de demain.
Alors vous misez beaucoup sur la décarbonation, mais certains de vos clients, les industriels, avec la crise de l'énergie, la flambée des prix, sont en train de réduire un peu la voilure. Certains d'arrêter leur production. Est-ce que ça vous inquiète, ce changement de conjoncture mondiale ?
C'est un point d'attention absolument de façon certaine. Ceci étant dit, le groupe Air Liquide est un groupe qui a démontré sa résilience et qui, je pense, a en plus accentué sa résilience au travers de notre plan stratégique qu'on a communiqué il y a quelques mois. Avec une focalisation très claire sur la performance opérationnelle, bien sûr, mais aussi être capable de construire sur nos business models, nos modèles d'affaires qui sont extrêmement résilients, nos diversités géographiques, nos diversités de métiers, et puis aussi, surtout, nous positionner sur les métiers d'avenir.
Vous nous regardez les semi-conducteurs, on prenait l'exemple tout à l'heure, on a déjà, après la période d'euphorie là, qui a suivi le Covid, des annonces de réduction des plans d'investissement chez les grands fabricants de puces parce qu'ils commencent à sentir la demande mondiale qui s'effrite et qui tombe. Est-ce que vous avez du coup, vous aussi, en répercussion, la baisse des commandes, des plans d'investissement qui sont un peu retardés ?
Alors, dans les semi-conducteurs, c'était plutôt la surchauffe depuis 18 mois. On est en train de voir un léger tassement en Asie en particulier, principalement à la fois pour quelques raisons de marché sur certains segments, et puis aussi une certaine tension en termes de personnes pour construire les usines. Ouais. Ceci étant dit, on a encore un carnet de commandes qui est extrêmement rempli. Par contre, si je puis revenir sur le sujet de la décarbonation, parce que effectivement, on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que dans le contexte actuel, nos clients vont abandonner leurs objectifs de décarbonation? Aujourd'hui, en Europe, c'est pas ce que nos clients nous disent. Mmh. Et on voit plutôt une accélération et le contexte actuel comme une opportunité d'aller plus vite pour décarboner les procédés industriels.
Et être moins dépendant, notamment, effectivement, des énergies hydrocarbures et de la flambée des prix.
Bien sûr, et on a la chance quelque part dans le groupe Air Liquide d'offrir des solutions qui sont extrêmement concrètes, qui sont l'hydrogène, on en a parlé, qui sont le CO2, la capture du CO2, qui est extrêmement important, mais aussi l'oxygène. Et je prends juste l'exemple de l'oxygène, par exemple, dans des procédés comme les fours à fer. Quand vous utilisez de l'oxygène à la place de l'air pour faire la combustion, pour faire fondre le sable, ben en fait, vous êtes capable d'économiser 15 à 20% de gaz naturel. Ce qui, dans le contexte actuel, permet à la fois de réduire votre facture, de sécuriser l'approvisionnement et bien sûr de diminuer les émissions de CO2.
Comment vous faites votre propre plan de sobriété énergétique à l'intérieur d'Air Liquide ? Et est-ce que c'est facile ? Tout le monde est déjà convaincu ? Vous aviez déjà baissé le chauffage ? C'était déjà un état de fait ?
Alors, la sobriété énergétique dont on parle beaucoup, je pense que c'est pour nous un impératif de toujours. C'est vraiment dans notre ADN, puisque c'est à la base de notre modèle de création de valeur. Quand notre matière première, quelque part, c'est l'énergie, puisqu'on utilise l'électricité pour faire de l'oxygène ou du gaz naturel pour faire de l'hydrogène. Donc, on a toujours conçu des usines qui consommaient moins d'énergie. Une génération aujourd'hui d'usines qui fait de l'oxygène consomme 5 à 10 % de moins que la génération précédente. Ça, c'est pour nous. Mais c'est aussi pour nos clients.
C'est une gestion de coût, en fait, tout simplement.
C'est une gestion de coût pour nous, bien sûr, mais c'est pas que de coût, c'est aussi notre engagement de neutralité carbone. Donc c'est extrêmement important, bien sûr, sur lequel on y est très attaché, mais c'est aussi pour nos clients, créer de la valeur pour leur trouver des solutions qui leur permettent d'économiser de l'énergie, réduire leur facture, mais aussi limiter leur empreinte carbone.
Laure, vous demandez en début d'interview si finalement, arrivant le 1er juin à la tête d'Air Liquide, c'était pas le meilleur moment pour devenir directeur général. En gros, si vous aviez pas un peu de chance, je vous posais la question contraire, est-ce que c'est pas le pire moment pour arriver à la tête d'une entreprise alors que la crise économique se profile, les ralentissements se voient un peu partout dans le monde?
Alors, je ne vais pas me réjouir d'une situation qui est globalement compliquée et difficile. Ceci étant dit, je vois ça comme étant effectivement, pour le groupe Air Liquide, un champ d'opportunités. Et donc, le point extrêmement positif dans l'ensemble de ce paysage, c'est quand même qu'on est capable d'offrir des solutions qui sont des solutions concrètes. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est une chance pour moi et pour l'ensemble des équipes d'Air Liquide.
Voilà.
Et j'espère pour nos clients.
Un directeur général heureux sur le plateau de Good Morning Business.
On avait bien besoin de
ce matin. On avait bien besoin de ce matin. Merci François Jacob, directeur général du groupe Air Liquide, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.